bientôt, peut-être que l'on pourra parler de jurisprudence, Texaco. Comment faire des pollueurs les payeurs? L'invité de la Grande Table des Idées aujourd'hui est l'avocat équatorien Pablo Fajardo, avocat de la partie civile dans l'action intentée en justice contre la multinationale Texaco Chevron, co-auteur d'une bande dessinée qui paraît aux arènes et qui relate l'histoire de ce scandale écologique, celui provoqué par le pétrolier américain qui, pendant 20 ans, a exploité l'or noir en Amazonie équatorienne avant de se retirer sans se préoccuper des dégâts causés. Un recours collectif, 30 000 paysans se battent pour obtenir aujourd'hui encore réparation. De passage par nos studios, avant de se rendre au festival Wheel of Green qui se tiendra demain et après-demain dans le bois de Vincennes en région parisienne. Festival nouvelle génération entre écolo et électro avec plus de 50 concerts et DJ sets ce week-end, mais aussi des rencontres et une série de conférences cette année sur le thème « Qu'est-ce qui débloque ?». Bonjour Pablo Fajardo.
Et buenos días, muchas gracias.
Merci beaucoup.
Bonjour à votre voix française, Isabelle Seguela, bonjour. J'aimerais qu'on commence, si vous le voulez bien, Maître Fajardo, par la fin de l'histoire, dans l'action intentée contre la compagnie pétrolière américaine Chevron Texaco. Avez-vous obtenu gain de cause?
On n'est pas encore au bout de cette histoire. Nous sommes dans un processus. Ça fait 26 ans que nous résistons, qu'il y a une lutte sociale des peuples victimes qui sont des paysans autochtones, les peuples autochtones de l'Amazonie, du nord de l'Équateur, qui se sont battus avec les paysans et qui ont été agressés déjà il y a 52 ans. Donc, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas au bout. Il y a pourtant une sentence définitive qui a été prononcée par un tribunal équatorien, mais Chevron refuse d'appliquer cette décision de justice et de payer ce qu'il doit. Et donc, nous menons cette bataille au niveau mondial, dans le monde entier, parce que nous voulons que les crimes contre l'environnement, contre la nature, ne restent pas impunis. Il faut que Chevron paye et il faut restaurer l'Amazonie.
Voilà, il n'y a pas de fin de l'histoire pour l'instant, mais il y a assurément un début. Années 70-80, durant deux décennies, la compagnie pétrolière américaine a exploité l'or noir d'Amazonie, réalisant, on l'imagine, des bénéfices assez faramineux. C'est une vieille affaire, n'est-ce pas? La première concession octroyée à l'État équatorien remonte à 1964. Construction dès lors de routes et d'oléoducs. Une véritable ville nouvelle va naître et émerger. Ensuite suivra la perforation des puits, la construction de stations de production, et tout cela va finir par chasser une partie des populations autochtones de leurs terres. Mais c'est aussi le nouvel Eldorado pour beaucoup de travailleurs, beaucoup de main-d'œuvre qui est attirée par cette situation et qui se dit que là, il y a la possibilité simplement de travailler. Quand vous parlez aujourd'hui de désastre écologique, qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? Qu'est-ce que cette compagnie pétrolière a provoqué pour pouvoir extraire, exploiter l'or noir dans cette région?
En réalité,
comme je le disais tout à l'heure, ces dommages ont commencé il y a 52 ans. Et le problème existe encore aujourd'hui et il va continuer à exister pendant des années, des décennies, tant qu'on ne réparera pas ces dommages, qu'on ne retirera pas les résidus toxiques. Qu'a fait Chevron là-bas? Eh bien, ils ont utilisé une technologie qui leur permettait d'augmenter leurs bénéfices tout en diminuant leurs investissements. Ce qu'ils ont fait, en réalité, c'est rejeter toutes les eaux polluées et toxiques, plus de 60 milliards de litres d'eau toxique contaminée qui a été rejetée directement dans les fleuves. Et toutes les routes, tous les chemins de la région étaient couverts de pétrole. Pour chaque puits pétrolier, ils construisaient 3, 4, 5 fosses où ils jetaient les résidus toxiques de l'industrie pétrolière. Et tout ça, ils l'ont fait dans le cœur même de la forêt amazonienne où vivaient des peuples autochtones originaires de cette région. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui montrent que l'entreprise et les travailleurs n'ont pas respecté la culture des peuples autochtones, leur mode de vie. Il y a eu des agressions, y compris des agressions sexuelles. Il y a des études qui le montrent. Et du fait de ces dommages portés à la culture de ces peuples, à leur richesse naturelle, à leur culture, deux cultures se sont éteintes. Il y a deux peuples qui ont disparu de la face de la terre. D'autres, les Secopais, Sionas, Boranes, survivent encore, mais ils sont menacés dans leur existence même. Et donc, le dommage causé par Chevron est un dommage porté à l'environnement, à la nature, mais c'est aussi un dommage porté à l'humanité vis-à-vis de ces peuples autochtones qui, comme je l'ai dit, certains se sont éteints et d'autres luttent encore pour survivre. Et en plus, c'est un crime de Chevron qui n'a pas été produit par un accident. C'est un crime intentionnel. Tout ce qu'ils voulaient, c'est augmenter leurs bénéfices tout en diminuant les investissements.
Voilà comment le poumon de la planète, la forêt amazonienne, équatorienne, est aussi devenu l'un des territoires les plus pollués aujourd'hui de la planète, avec ces résidus toxiques qui ont sali la terre, les eaux, mais aussi touché directement à la santé des habitants qui utilisaient cette eau pour se laver, pour faire la cuisine. Donc un désastre humanitaire, dites-vous, et un désastre écologique. Comment vous êtes-vous arrivé au centre de ce combat ? Il faut raconter pour ceux qui nous écoutent que vous n'êtes pas un outsider. Vous faites partie de ces peuples autochtones ou de cette main-d'œuvre qui avait au départ travaillé pour cette compagnie ?
Bon, effectivement.
En effet. Tout d'abord, il y a un dommage que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est le dommage porté à la vie des êtres humains. Nous avons fait plusieurs études dans cette région et il y a le taux de cancer le plus élevé d'Amérique latine et peut-être du monde entier. Et c'est dans cette zone qu'on le trouve. Et le plus grave, c'est que sur quatre cas de cancer que l'on retrouve, trois affectent des femmes. Ce sont les femmes qui sont les principales victimes de ce crime environnemental commis par cette entreprise pétrolière contre la nature et contre ses populations. Et c'est un crime irréparable. Moi, je suis née sur la côte de l'Équateur, mais il y a plus de 30 ans, mes parents sont partis dans la région amazonienne, donc dans le nord de l'Équateur. Moi, j'étais très jeune, je n'avais que 14 ans. Mais j'ai commencé à travailler d'abord dans des palmeraies, et puis j'ai travaillé comme ouvrier chez Texaco. On m'envoyait jeter de la terre sur le pétrole qu'ils rejetaient pour que ça ne se voie pas. Et vous savez, moi j'étais ouvrier et je faisais ce que les patrons m'ordonnaient de faire. Mais ensuite, lorsque j'ai parlé avec les membres des communautés locales, j'ai vu que les gens souffraient, qu'ils mouraient, que leurs biens, leurs animaux étaient complètement dévastés par ces résidus toxiques qui se retrouvaient partout, dans les rivières, dans les sols. Et nous avons commencé à travailler avec ces gens pour ensemble mettre sur pied un processus qui permette le respect des droits humains et des droits des peuples autochtones et qui permette la réparation. Ce qui a été difficile à cette époque-là, c'est que l'entreprise était l'alliée étroite du gouvernement. Et cette entreprise et le gouvernement étaient ensemble contre les peuples autochtones, leurs droits et la nature. Et donc, ces peuples avaient très peu de possibilités, très peu d'espoir de trouver quelqu'un qui les écoute parce que le gouvernement était aux côtés de l'entreprise.
Voilà, tout cela a été fait à ce moment-là aussi avec la complicité de l'État équatorien que vous avez aussi désigné dans cette action en justice que vous avez portée par la suite. Vous devenez avocat après avoir été ouvrier, travailleur, vous suivez des cours du soir et vous parlez aussi d'une rencontre qui a été très importante pour vous, celle avec trois pères franciscains. Qu'est-ce qu'ils ont éveillé en vous ? Quel sens du combat ils vous ont apporté ?
Un sentido de la lucha.
Bueno, sí, realmente...
Oui. Je crois que dans ma vie, j'ai appris grâce à beaucoup de personnes. D'abord, grâce à mes parents. Mon père est un homme qui est analphabète. Il ne sait ni lire ni écrire. Mais c'est un homme tellement honnête, tellement digne. Et il disait toujours, moi, je ne veux signer aucun document parce que ma parole vaut plus que la signature d'un document. Et il a beaucoup lutté dans sa vie. Il a travaillé, comme ma mère d'ailleurs. Mais j'ai aussi beaucoup appris de ces trois pères franciscains qui venaient de la Navarre, de l'Espagne. Et avec eux, j'ai vu les choses autrement. Eux, ils étaient très proches de la théologie de la libération, cette branche de l'Église catholique qui est beaucoup plus proche des peuples, des luttes sociales, de leur vie. Et j'ai beaucoup appris avec eux dans ce contexte. J'ai appris à me battre aux côtés de ces populations. Et je crois que tous ces éléments ont contribué à ma formation pour que je comprenne mieux comment fonctionne le monde et où se posent les véritables problèmes. Et c'est là qu'est venue mon envie de devenir avocat aussi. Parce que lorsque je travaillais dans cette région, j'ai créé d'abord un groupe de défense des droits humains avec ces trois pères franciscain et j'allais voir le juge, j'allais voir le maire du village, j'allais voir les membres de l'administration. Et chaque fois que j'allais les voir, on disait, mais cherchez un avocat qui vous aide. Et dans mon village, qui était un tout petit village, il n'y avait pas d'avocat. Tout le monde travaillait soit pour l'entreprise pétrolière, soit pour l'État. Et il n'y avait personne, en fait, qui puisse appuyer ces gens. Et donc, c'est là que je me suis dit, mais c'est moi qui vais devenir avocat. Mais je ne pensais pas à l'époque, défendre ce cas Chevron. Moi, ce que je voulais, c'était être avocat et défendre les droits des personnes sur le plan local. Mais ensuite, par les circonstances de la vie, je me suis retrouvée face à ce cas qui, aujourd'hui, occupe 100% de mon temps.
Et aujourd'hui, votre arme principale, c'est le droit et votre combat, c'est donc celui-ci, d'où votre surnom aussi, le David de l'Amazonie, en référence à David et Goliath, un combat que vous menez au nom des 30 000 victimes de ces activités, des activités de la compagnie pétrolière, un combat qui semble déséquilibré et on va le voir, c'est aussi ce que raconte la suite de l'histoire. France Culture, il est presque 13h10 avec notre invité, l'avocat équatorien Pablo Fajardo, jusqu'à 13h30.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
Le scandale Texaco, l'une des plus grandes pollutions pétrolières de l'histoire. Le volet judiciaire de cette affaire commence en 93, quand l'union des victimes de Texaco est constituée, qu'un recours collectif est monté au nom donc des parties civiles pour porter la parole des sans-voix, celle des paysans autochtones d'Amazonie, victimes des actions de la firme. Devant quel tribunal vous portez d'abord l'affaire? Quelle juridiction est compétente, Pablo Fajardo?
Je ne suis pas seule dans cette lutte. Ce n'est pas une lutte personnelle, c'est une lutte collective. Je crois que les grandes batailles dans le monde, les grands combats, ne peuvent réussir que s'il y a l'appui, la participation, l'engagement de tous les gens qui sont affectés. Et là, ce sont des personnes de 6 peuples autochtones et des milliers de paysans. Et moi, je suis l'un d'entre eux. Peut-être que par mon rôle d'avocat, je suis leur porte-parole, mais sans eux, je ne suis rien. Ce sont eux qui se battent et ce sont eux qui ont été victimes parce qu'il y a eu beaucoup de morts, de morts à cause du cancer. Ce sont eux les victimes. Et je voulais le dire clairement parce que c'est important pour nous. C'est un combat collectif, un combat qui nous appartient à tous. Et dans ce processus, dans ce procès que nous avons fait, c'est en novembre 93 que nous avons déposé le recours à New York. Donc, en novembre prochain, ça fera 26 ans que nous aurons entamé cette lutte. Et il a fallu 10 ans pour avoir accès à la justice. Le cas a été renvoyé en Équateur. Nous sommes battus encore pendant 15 ans en Équateur. En Équateur, on a eu en fait une sentence qui est définitive et qui a condamné Chevron à payer 9,5 milliards de dollars.
Es importante aclarar.
Il est important de dire que cet argent, ce n'est pas de l'argent que l'on va ensuite distribuer aux victimes, c'est de l'argent que nous voulons utiliser complètement pour réparer les dommages. Parce que nous disons, l'argent n'a aucun sens, aucune valeur, si l'environnement est détruit, si la terre est détruite, si l'eau ne peut pas être consommée. Donc ce qui est plus important que l'argent, c'est la vie. Et nous pensons qu'il faut réparer ce qui a été fait. Mais au cours des 6 dernières années, nous avons porté l'affaire au Brésil, en Argentine, au Canada, pour que ces pays reconnaissent la sentence prononcée en Équateur pour que Chevron nous paye ce qu'il nous doit et que nous puissions réparer notre Amazonie. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu accès à la justice dans ces pays-là. C'est incroyable de se rendre compte que la justice n'existe pas. La justice n'existe pas quand les peuples sont victimes des grandes multinationales. Il y a une structure judiciaire mondiale qui protège les multinationales et qui laisse sans défense ces peuples autochtones.
La justice, vous n'y croyez plus aujourd'hui ?
Aujourd'hui,
non, mais je crois que nous devons rompre ce cercle vicieux. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas possible que ces crimes restent impunis. Et si nous qui voulons une vie meilleure dans le monde, nous nous unissons pour qu'il y ait de la justice, alors on y parviendra peut-être. Aujourd'hui, le monde n'est pas capable de répondre à nos besoins, mais il faut rompre ce cercle vicieux. J'insiste, il ne peut pas y avoir d'impunité pour ces crimes. Il faut forcer les choses pour qu'il y ait une justice pour tous.
Vous le racontez dans cette bande dessinée, ce roman graphique Texaco, Et pourtant n'ouvre un cron qui paraît, dont vous êtes l'un des co-auteurs, Pablo Fajardo. Vous racontez que chaque année, vous suivez les débats qui ont lieu au Palais des Nations, le siège européen des Nations Unies, que vous prenez la parole au même titre que d'autres représentants des peuples sacrifiés. Nous sommes allés devant les tribunaux d'Argentine, du Brésil, du Canada, devant la Cour pénale internationale. Nous avons obtenu 3 condamnations en Équateur. Pourtant, nous ne parvenons pas à obtenir réparation. Condamnation, oui, mais pas réparation. Les cours internationales protègent invariablement les entreprises et laissent sans défense la nature et les hommes. Après 25 ans de combat, je commence à penser que la justice est un conte, une belle histoire que l'on raconte aux enfants. Et pourtant, je ne peux croire qu'un crime comme celui commis en Amazonie reste impuni. Je suis fière de défendre un peuple qui se bat depuis 25 ans sans renoncer, sans fléchir. Résumons sur ce parcours, cette presque saga judiciaire de cette affaire. 93, c'est le premier recours qui est porté donc devant un tribunal à New York. Plus de 9 ans après, cette juridiction va être jugée incompétente pour s'occuper de cette affaire et donc l'affaire va être transférée en Équateur, là où résident les plaignants. C'est en 2002, 9 ans déjà de perdu, et c'est à ce moment-là que vous arrivez comme avocat, que vous reprenez l'affaire. Et ensuite vous obtiendrez cette condamnation en 2011 à plus de 9 milliards de dollars par la justice équatorienne, mais la compagnie pétrolière Texaco Chevron se retourne alors contre les afectados, contre ces 30 000 équatoriens paysans qui ont fait groupe pour obtenir réparation et les accuse d'escroquerie en bande organisée. Écoutez le porte-parole de Chevron Texaco à ce moment-là, James Craig.
Les chiffres sont le produit de l'imagination des avocats des plaignants. Ils affirment se battre pour le ver de l'Amazonie, mais la vérité est que le seul ver qui les intéresse est celui des dollars qu'ils essaient de nous soutirer. Nous allons faire appel et combattre cette sentence pendant des années s'il le faut. D'abord en Équateur, puis dans n'importe quel cour où ils essaieront de faire exécuter cette décision frauduleuse.
Voilà, c'est James Craig, porte-parole de Chevron à deux moments différents. C'était sur France Inter en 2011. Quelle est la stratégie de défense de la multinationale ? Quelle a été cette stratégie depuis 15-20 ans que ce combat judiciaire est en cours ?
La stratégie de Chevron a évolué au fil du temps. Ça dépendait des situations. Au début, Chevron a essayé une stratégie de diffamation de l'État équatorien et dire que l'État ne permettait pas que la justice se prononce en Équateur. Avant, ils avaient essayé de montrer aux juges d'Amérique du Nord que ce procès n'aboutirait ni en Équateur, ni aux États-Unis. Et puis ensuite, qu'ils réparaient les dommages, chose qu'ils n'ont jamais faite. Et ensuite, il y a eu cette diffamation contre nous, ce que disait James Craig. C'est une diffamation contre nous. Chevron a voulu faire des victimes des criminels. Et eux, ils ont voulu se faire passer pour des victimes. Ils disent que ce sont les paysans, nous, les populations autochtones qui avons fait une victime qui serait Chevron, alors qu'il y a une nature qui est complètement détruite. Il y a des victimes, des gens qui sont morts de cancer. Et ça, ce sont les vraies victimes. Mais ces gens-là n'ont pas de recours pour faire entendre leur vérité. Chevron, au cours des dernières années, dans le cadre du système d'arbitrage, a essayé d'attaquer l'État équatorien et obliger l'État à payer pour les dommages qui ont été provoqués par Chevron. C'est incroyable. Nous avons gagné ce procès légitimement devant la justice. Nous avons quatre arrêts, mais un panel d'arbitrage privé, très bien payé par Chevron d'ailleurs, ont prononcé un arrêt contre l'État équatorien. Et dans cet arrêt, les arbitres ont ordonné à l'État équatorien d'annuler la sentence qui avait été prononcée par la justice équatorienne en notre faveur. Et c'est incroyable qu'un système d'arbitrage privé veuille prévaloir sur les lois d'un État souverain et indépendant qu'est l'Équateur. Imaginez que ça se passe en France, que des arbitres privés ordonnent au gouvernement français d'annuler des sentences de la Cour suprême française. Mais ce serait impossible en France. Eh bien, c'est ça qu'ils veulent faire chez nous, en Équateur. Donc, ce système d'arbitrage, ISDS, est un système pervers qui porte atteinte aux droits humains, à la vie, et c'est un grave problème pour l'humanité aujourd'hui.
Vous évoquiez tout à l'heure les complicités de l'État équatorien dans les premiers temps, puis il y a eu un retournement de situation, c'est l'arrivée au pouvoir d'un économiste, le président équatorien de gauche, Rafael Correa, à la tête du pays en 2007 jusqu'à 2017, et c'est devenu à ce moment-là le combat d'un peuple et de tout un pays. Écoutez-le.
En tant que président et gouvernement, nous allons dire la vérité au monde. Et nous n'allons pas laisser cette entreprise transnationale, avec ses millions, son arrogance et sa malhonnêteté, se soustraire à ses responsabilités, duper le monde et discréditer un petit pays, mais immense en dignité et souveraineté, comme l'Équateur. Nous avons lancé une campagne internationale, la main sale de Chevron, pour révéler cette pollution, cette destruction environnementale causée par cette entreprise transnationale dans notre Amazonie. Nous lançons un appel aux citoyens du monde pour nous rejoindre dans cette lutte. Arrêtez d'acheter des produits de Chevron, arrêtez d'utiliser les stations-service de Chevron. Unis, les êtres humains peuvent vaincre le grand capital.
Est-ce que le nouveau président équatorien, Lénine Moreno, vous soutient encore dans ce combat, poursuit cette démarche politique, pour le coup. Là, on quitte le judiciaire engagé par Rafael Correa.
Je dois vous dire que cette affaire, c'est une affaire de personnes privées qui sont victimes de Chevron. Et donc, l'État équatorien, en fait, n'est pas partie civile dans ce procès. Ce qu'a fait l'ex-président Correa, c'est défendre l'État parce que l'État avait été attaqué par Chevron. Mais, bien évidemment, l'État ne peut pas intervenir dans un cas qui est un cas privé. Malheureusement, le gouvernement actuel du président Moreno s'est allié avec Chevron. Ils sont assis à la même table que Chevron. Nous croyons savoir qu'il y a un accord entre le gouvernement actuel de M. Moreno et l'entreprise Chevron. Et ils sont ensemble contre nous aujourd'hui. C'est la pratique commune, vous savez, dans le monde entier. Les gouvernements avec les grandes multinationales et contre les peuples. Et ça se passe dans le monde entier, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui en Équateur. Chevron est appuyé par le gouvernement et donc aujourd'hui, nous devons nous battre et contre Chevron et contre le gouvernement.
L'État n'est peut-être pas partie prenante au procès, mais l'État peut mobiliser l'opinion. Or, vous menez cette bataille sur le terrain judiciaire depuis un certain nombre d'années. Il y a une autre bataille qui est quand même et qui reste très importante à gagner, c'est justement celle de l'opinion. La cause que vous défendez restant encore assez méconnue. Comment vous expliquez d'ailleurs cette presque relative indifférence depuis tant d'années?
Ça, c'est une réalité, parce que nous pensons que ces combats, ce sont des combats mondiaux et aussi des combats intégraux, c'est-à-dire c'est à la fois sur le plan de la justice, mais sur le plan culturel aussi, sur le plan de l'éducation, et la partie de la communication est très importante. Mais malheureusement, nous avons très peu de ressources, et malheureusement, beaucoup de médias ont ignoré tout ce procès, toute cette affaire, parce que nous n'avons pas les moyens. Et donc, nous vous remercions de nous donner cet espace pour nous exprimer, parce que nous pensons qu'il faut faire connaître ce procès, parce que ce n'est pas un combat uniquement de l'Amazonie équatorienne. Si nous pouvons faire comprendre au monde le rôle que joue l'Amazonie dans l'équilibre écologique de la planète, je crois qu'on pourrait impliquer beaucoup plus de monde. Et puis, il y a ce que nous disons toujours, ce crime de Chevron. Ce n'est pas le seul crime qui soit commis contre l'humanité. Le cas Mariano au Brésil, Roda Plaza, Shell au Nigeria. Donc, il y a plusieurs cas dans le monde de crimes de grandes entreprises qui restent impunis aujourd'hui. Et nous pensons que le cas Chevron est sans doute l'un des cas les plus importants et qui illustre le mieux cette impunité des grandes entreprises sur notre planète. C'est pourquoi il est important que l'humanité comprenne, que l'opinion publique, les jeunes qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, fassent connaître ce cas et que nous arrivions à créer une conscience collective. Parce que notre lutte, ce n'est pas une lutte simplement pour l'Amazonie, c'est une lutte pour la planète. Car s'il n'y a plus d'Amazonie, la planète en souffrira. Et nous devons tous défendre ce qui nous reste de cet environnement amazonien.
Vous n'êtes pas un cas isolé, cette affaire-là. En tout cas, il y a d'autres zones à défendre dans le monde. C'est ce que vous rappelez à l'instant, Pablo Fajardo. Et c'est peut-être ça qui inquiète. C'est que vous pourriez créer un précédent embarrassant pour d'autres grandes entreprises, d'autres multinationales dans le monde.
Oui, c'est un point très intéressant. Et nous sommes sûrs que c'est pour ça que nous avons tous ces problèmes. Ce n'est pas une question d'argent. En réalité, Chevron a des bénéfices nets de plus de 25 milliards de dollars par an. Ce qu'ils nous doivent, c'est 9 milliards 500 millions. C'est-à-dire que, avec moins de 6 mois de bénéfices, ils pourraient tout payer. Donc, pour Chevron, ce n'est pas une question d'argent. Le problème pour eux, c'est le précédent que cela créerait. Parce que Chevron et les autres multinationales comprennent que ce cas menace tout leur système, que si notre cause aboutit, ça pourrait éveiller la conscience de beaucoup de gens dans le monde qui ont été victimes des crimes de ces grandes multinationales. Et ils ont peur de ça. Et c'est pour cela que le PDG de Chevron a dit à plusieurs reprises qu'ils vont lutter jusqu'à ce que l'enfer se gèle, devienne une patinoire et ensuite ils patineront sur cette patinoire de l'enfer. Donc ça montre bien que c'est une entreprise qui n'a aucune intention de respecter la loi et ils vont tout faire pour que cela ne constitue pas un précédent. Mais moi je crois aussi que nous vaincrons. Oui, nous vaincrons si nous arrivons à construire ce collectif, cette force sociale collective mondiale en unissant les forces de beaucoup dans le monde, nous arriverons à ce que Chevron paye pour ses crimes et pour que ces crimes ne se reproduisent nulle part ailleurs dans le monde.
Vous ne pensez pas que c'est le procès d'une époque qui est révolu aujourd'hui? Vous ne pensez pas que sous la pression, à défaut d'avoir obtenu réparation, quand même, de votre combat et d'autres similaires, les choses sont en train de changer? Les entreprises, ces grandes entreprises, sont en train de s'imposer des codes de bonne conduite?
Moi, je ne crois pas aux codes de bonne conduite volontaire, très honnêtement. Je crois qu'il faut forcer les choses, il faut des règles obligatoires et qui soient appliquées par tous. Les entreprises disent « oui, oui, nous nous engageons à respecter de bonnes volontés et avoir des codes de bonne conduite ». Mais ce n'est pas vrai. Quand on voit ce qui s'est passé les dernières années, il y a ces principes de Ruggi, mais pourtant il y a une augmentation de la violence des grandes entreprises. Il y a le cas au Honduras, en toute impunité. Il y a d'autres cas au Brésil, en Argentine, en Afrique. Il y a beaucoup de cas de grandes entreprises qui commettent ces crimes. Donc la bonne volonté, ça peut être intéressant. Mais vous savez, toutes les entreprises ne font pas preuve de responsabilité. Il faut donc des règles qui soient obligatoires et contraignantes. Et
justement, le droit international est-il équipé pour sanctionner ces crimes environnementaux? Beaucoup de juristes aujourd'hui, comme Valérie Cabanès en France, plaident pour la reconnaissance d'un crime d'écocide.
L'idée, si vous voulez, c'est que le crime d'écocide est un crime plus grave qu'un crime contre l'environnement au sens où on l'entend encore aujourd'hui, dans le sens où il s'agit véritablement de porter atteinte à l'habitabilité de la Terre, à la sûreté de la planète. C'est-à-dire qu'il peut effectivement recouvrir un champ qui ne va pas s'appliquer directement à l'homme. Le problème d'aujourd'hui dans le droit, et on le voit à la Cour pénale internationale, les crimes qui sont reconnus par la Cour pénale internationale comme étant les crimes internationaux les plus graves, sont toujours en lien avec l'humanité et ne reconnaît pas véritablement le fait que quand on détruit le vivant, quand on détruit des communs planétaires comme sont les océans, l'atmosphère, les pôles, les grands pôles génétiques, les espèces migratrices, à un moment donné ou un autre, il y aura des retombées pour les générations à venir et pour l'humanité et pour la paix. Donc ce terme nous oblige finalement à sortir du champ juridique actuel, à créer de nouvelles valeurs, à créer de nouveaux sujets de droit, à savoir d'une part les générations futures comme sujet de droit, c'est-à-dire comment aujourd'hui peut-on préserver les conditions d'existence des générations à venir devant la justice et donc ester en justice en leur nom. Et puis, ultimement, de reconnaître des droits à l'écosystème Terre et à ses cycles écologiques de façon à préserver la vie sur Terre.
Voilà, et on terminera là-dessus, Maître Fajardo, puisque vous êtes avocat. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, à vos yeux, renforcer l'arsenal juridique pour permettre au droit international de faire respecter à la fois le droit des peuples, mais aussi de sanctionner quand une entreprise provoque des dégâts environnementaux? Est-ce qu'il faut inventer un crime d'écocide?
Tout d'abord, il faut renforcer deux choses qui sont essentielles. Bien sûr, le droit international, l'écocide doit être un crime contre l'humanité, doit être défini comme tel. Mais le plus important, c'est qu'il faut une plus grande conscience écologique. Et je suis très heureux d'avoir été invité par Le Monde à ce festival avec tous ces jeunes, parce que ça va nous permettre de transmettre le message à beaucoup plus de monde et qu'il y ait la création de cette conscience collective. Nous n'attendons pas que d'autres viennent nous sauver. C'est à nous d'agir, et à nous et aux jeunes d'agir pour sauver la planète.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pablo Fajardo. Je rappelle le titre de cette bande dessinée collective parue aux Arènes éditions Texaco. Et pourtant, nous vaincrons. Je rappelle aussi que vous serez présent au festival We Love Green qui se tiendra dans le bois de Vincennes autour de Paris ce week-end. We Love Green avec vous et plein d'autres tables rondes au programme et notamment ce samedi, biodiversité, un débat sur la question de savoir comment rire le déclin avec Dominique Bourg, Célia Blanc, Lawel et Rémi Barou. Et dimanche à 14h, une carte blanche donnée à Cyril Dion. Plutôt que de regarder le monde s'effondrer, changeons-le. Voilà certains des débats qui seront présentés là-bas sur la scène think tank du festival Wheel of Green, qui aussi accueillera beaucoup d'artistes en concert samedi et dimanche soir. Merci à toute l'équipe de la Grande Table pour cette belle semaine. Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez, à Auriane Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Mathilde Tonfourcade et d'Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie Placet avec Souad Boukorsa. Je vous souhaite un très beau week-end sur France Culture.